Donc on va entrer en 2017 dans une année électorale. On va élire un nouveau président de la République. Alors on sait à présent que ce sera un nouveau président. On va aussi élire de nouveaux députés, ou les mêmes, on ne sait pas. En tout cas, les campagnes électorales ont déjà bien débuté pour certains, et vous avez dû remarquer que les périodes d'élections sont propices à entendre de nombreuses promesses. C'est ça, des promesses de campagne. Je supprimerai tel impôt. Je prendrai soin des plus pauvres. J'économiserai 800 millions. Et moi, 1 milliard ! Ça fait partie de la vie démocratique de notre pays. Mais tout comme moi, vous avez certainement déjà été déçu par des promesses non tenues d'hommes politiques à qui vous aviez peut-être même apporté votre suffrage. Pourtant, ils n'ont pas accompli ce pour quoi ils s'étaient engagés. C'est peut-être ce que vous avez vécu aussi au niveau professionnel. Vous avez peut-être fait l'expérience douloureuse d'être trahi, une promesse d'embauche non tenue, une augmentation de salaire qui n'a pas été respectée, une promotion promise qui n'est jamais venue. Vous avez peut-être déjà été déçu par un ami qui n'a pas respecté son engagement, qui a révélé un secret que vous lui aviez confié. Vous avez peut-être même été trahi par celui ou celle avec qui vous partagez tout, votre meilleur ami, votre conjoint. Les promesses non tenues ou les trahisons sont des expériences douloureuses que l'on souhaite à personne. On se rappelait dimanche dernier, et le précédent également, de l'horrible trahison de Judas qui a livré Jésus aux autorités alors que Jésus était parfaitement innocent. Jésus, lui aussi, il a vécu la trahison d'un ami. Et ça fait mal. Vous avez certainement remarqué en lisant la Bible qu'elle regorge de promesses. Je ne suis pas aventuré à les compter. J'ai trouvé un blog sur Internet qui en recense 1260. Ça nous donne un ordre d'idée. Je ne sais pas comment il a compté. On ne serait même pas capable de les retenir toutes par cœur, mais Dieu, lui, non seulement il les connaît, mais en plus il les accomplit fidèlement. Dieu dit dans le psaume 89, « Je ne violerai point mon alliance, je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. » Et c'est la leçon qu'on va tirer du passage de la Bible qu'on va lire aujourd'hui. Dieu est digne d'être loué et adoré parce qu'il accomplit toujours ses promesses. On peut vraiment avoir confiance en lui. Avant de lire le passage qui se trouve dans le premier chapitre de Luc, il faut commencer par quelques mots de contexte. Les deux premiers chapitres de Luc sont assez uniques par rapport aux autres évangiles parce que Luc est le seul à nous relater avec précision les circonstances de la naissance de Jésus et ce qui se passe avant cette naissance. Les autres évangiles ne donnent que très peu d'informations sur cette période et commencent presque directement avec un Jésus adulte. C'est le cas par exemple de l'évangile de Marc. Mais Luc, dont l'évangile se présente un peu comme un reportage de journaliste, veut nous donner le maximum de précision. Luc, c'est un peu comme un botaniste qui vient de trouver une plante exceptionnelle. Et là où certains se contenteraient de décrire l'aspect extérieur de la plante, lui, il va même aller regarder les racines pour qu'on ait vraiment une vision complète. Et il relate donc dans ces deux premiers chapitres, non pas une, mais deux naissances miraculeuses qui se déroulent en parallèle. La première, c'est celle de Jean-Baptiste. Ses parents, Zacharie et Élisabeth, sont vieux. Et ils sont stériles. Ils n'ont pas eu d'enfants. Et à l'époque, c'était vraiment vécu comme une honte sociale. Il va y avoir beaucoup de tristesse et d'amertume dans leur cœur. Mais Dieu a changé leur tristesse en joie. L'ange Gabriel est apparu à Zacharie alors qu'il servait dans le temple à Jérusalem pour lui annoncer la bonne nouvelle que sa femme allait enfanter, allait avoir un enfant. Et ce fils allait s'appeler Jean. Et c'est ce qui est arrivé, conformément à la promesse de Dieu formulée par l'ange Gabriel. Il s'agit d'une grossesse miraculeuse, mais naturelle dans sa conception. Alors que celle de Marie, qui survient 6 mois plus tard, est véritablement et incontestablement surnaturelle. Le même ange Gabriel lui apparaît pour lui annoncer qu'elle va enfanter elle aussi un fils qu'elle devra appeler Jésus. On a lu tout à l'heure le passage dit de l'Annonciation qui relate cet événement. Cette grossesse-là, elle est également miraculeuse, mais encore plus surnaturelle dans sa conception, puisque Marie n'est pas mariée, et que l'enfant qu'elle va porter sera enfanté directement par Dieu, par l'intermédiaire du Saint-Esprit qui a implanté cette grossesse en elle. La vie va naître et grandir chez la jeune fille vierge comme chez la vieille femme stérile. Eh bien oui, rien n'est impossible à Dieu. Et puis Dieu a promis, alors Dieu a accompli conformément à sa promesse. Le destin de ces deux enfants, Jean et Jésus, est lié dès le ventre de leur mère. Ils partagent même un lien de parenté, leur mère étant cousine. Leur ministère sera complémentaire. Jean préparera le terrain pour le ministère de Jésus en appelant ses compatriotes à la repentance. Et tous les deux mourront dans des circonstances tragiques. l'un décapité et l'autre sur une croix. Et le destin de ces deux hommes se croise pour la première fois dans le passage qu'on va lire et commenter aujourd'hui. Il s'agit de la visite de Marie à sa cousine Élisabeth, que l'on trouve dans le premier chapitre de Luc au verset 39 à 56. Et il suit directement le passage de l'Annonciation qu'on a lu au début de ce culte, qui vient juste après. Et vous allez voir toute la joie et la louange que ces deux femmes expriment devant la puissance de Dieu, devant sa fidélité à ses promesses. Qu'on va lire Luc 1, verset 39 à 56. Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte : « Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi ? Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. » Et Marie dit : « Mon âme exalte le Seigneur, mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici désormais toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint, sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras, il a dispersé ce qui avait dans le cœur des pensées orgueilleuses, il a renversé les puissants et leurs trônes, et il a élevé les humbles. Il a rassasié de bien les affamés, et il a renvoyé les riches à vide. Il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa miséricorde, comme il l'avait dit à nos pères, envers Abraham et sa postérité pour toujours. » Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle retourna chez elle. On va commencer par prier. Notre Dieu, notre Père, nous voulons venir humblement devant toi pour entendre ce que cet extrait de ta parole a à nous apprendre. Je te prie que cette prédication puisse être une source d'encouragement pour nous tous et qu'on puisse s'émerveiller comme Élisabeth et comme Marie, s'émerveiller tout à nouveau devant ta grandeur, devant les merveilles que tu fais, devant ta fidélité et ton amour envers nous. Amen. Donc le récit de deux femmes enceintes qui se rencontrent et qui se réjouissent ensemble. Peut-être qu'elles ont parlé de leur nausée et de leur fatigue liée à la grossesse, mais ce n'est pas ce qui nous est relaté là. Elles se rencontrent pour adresser à Dieu des louanges pour sa fidélité envers ses promesses. On aurait pu donner comme titre à ce récit « Louange dans les enceintes ». Et bon, on l'appelle plus communément la visitation. Il n'est pas de moi ce titre « Louange dans les enceintes », mais je le trouve quand même. On ne sait pas exactement pourquoi Marie se précipite chez sa cousine Élisabeth, parce que ça ne nous est pas dit explicitement, mais on peut tout à fait le comprendre. Bon, déjà, l'ange a annoncé à Marie qu'Élisabeth était dans son 6e mois de grossesse, elle qui était stérile, donc probablement qu'elle veut se réjouir avec elle de cette nouvelle. S'il avait vécu de nos jours, peut-être qu'elle lui aurait juste envoyé un SMS ou un WhatsApp, mais à cette époque, elle n'avait pas d'autre choix que d'y aller à pied. Et ça représente quand même 4 jours de marche. Pour une femme, ce n'était pas vraiment habituel et même très risqué de voyager seule sur une si longue distance. Mais ça n'enlève en rien son empressement à rejoindre les montagnes de Judée. Peut-être qu'elle veut aussi fuir Nazareth et le scandale que constitue une grossesse chez une femme non mariée, même si c'est vrai qu'à ce stade, elle pouvait encore le cacher. En tout cas, cette visite permet aux deux récits de grossesse miraculeuse de se rejoindre dans une scène où sont présents 5 protagonistes, 5 personnes. Et vous pouvez compter avec moi, hein, les enfants, on va compter les protagonistes, les personnes qui sont là. Donc il y a qui ? Qu'est-ce que vous voyez dans la scène ? Je vais vous aider. Il y a Marie ? Il y a qui d'autre ? Élisabeth. Et puis dans le ventre d'Élisabeth, qui est-ce qu'il y a ? Il y a Jean-Baptiste, enfin Jean le Baptiste qui s'exprime, hein, il est bien présent, hein, il s'exprime. Et puis dans le ventre de Marie, qui est-ce qu'il y a ? Et bien, il y a Jésus. Il ne s'exprime pas, bon, certainement parce qu'il est encore à un état embryonnaire, mais il est présent, puisque c'est sa présence qui suscite toute l'excitation de la scène, et en particulier la réaction de Jean-Baptiste qui tressaille d'allégresse. Je ne sais pas vous, mais ça me fait bizarre de me dire que Jésus, fils de Dieu, a à ce point embrassé notre condition humaine qu'il a existé pour un temps en tant qu'embryon. Jésus, il n'est pas tombé du ciel. Il n'a pas toujours été cet homme fort et charismatique que l'on voit dans son ministère public. Non, il a commencé sa vie comme nous tous, comme un embryon dans un utérus. Dans toute sa fragilité, sa dépendance à sa mère, il a pris notre condition de A à Z. Il a partagé notre fragilité, comme nous le rappelait d'ailleurs Alex il y a de ça 15 jours en commentant le récit des événements qui ont précédé la crucifixion. On a vu toute la fragilité aussi de Jésus qui a partagé notre condition. Et là, ça fait que 4. Hein. Le cinquième et le dernier protagoniste, personnage, c'est qui? Et bien, c'est le Saint-Esprit, la troisième personne de la Trinité qui œuvre dans le cœur de Jean-Baptiste, d'Élisabeth et de Marie, qui inspire le cri de joie d'Élisabeth, le tressaillement d'allégresse de Jean-Baptiste et le cantique de Marie. C'est lui qui est à l'origine de cette scène qui se joue, des paroles qui s'échangent. Le Saint-Esprit est présent en personne. Le Saint-Esprit, c'est pas juste une force agissante. Ce n'est pas une force agissante de Dieu, mais bien une personne à part entière dans la Trinité, dans la triunité divine, au même titre que Dieu le Père et que Dieu le Fils, Jésus. Chaque personne est revêtue de la même nature divine. Jésus a dit « Moi et le Père, nous sommes un », mais avec trois fonctions différentes. Et Dieu, le Saint-Esprit, lui, il œuvre, entre autres, hein, dans les cœurs des croyants pour rendre témoignage à Jésus, non pas pour attirer la gloire sur lui, mais pour révéler Dieu le Fils et la grâce du Père. Et on aura l'occasion, en 2017, d'avoir une série d'enseignements sur le Saint-Esprit. Aujourd'hui, c'est un peu comme un teaser, une bande-annonce. Et on voit régulièrement dans l'Ancien Testament le Saint-Esprit descendre sur une personne pour lui donner une assurance, lui donner une sagesse ou une puissance pour une mission particulière. Il s'agit souvent d'une mission prophétique. L'apôtre Pierre dira « C'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu » dans le deuxième épître de Pierre au chapitre 1. Et ici, le Saint-Esprit tire des louanges de la bouche de ceux qui en sont remplis. Donc de Élisabeth et de Marie, et un peu plus loin dans le récit de Zacharie, de Siméon, d'Anne. Luc a tendance à souligner l'action du Saint-Esprit dans le cœur des croyants. Ce n'est pas encore la plénitude du Saint-Esprit, car comme l'annoncera Jésus plus tard dans son ministère, le Consolateur, l'Esprit de vérité, sera envoyé après sa mort et sa résurrection pour convaincre le monde de péché, pour régénérer les croyants, pour rendre témoignage aux croyants qu'ils sont enfants de Dieu, pour nous conduire dans la vérité, pour rendre témoignage à Christ, en fait. Et c'est ce que fait le Saint-Esprit dans ce passage. Jean-Baptiste tressaille d'allégresse parce qu'il est rempli du Saint-Esprit, conformément à la promesse de l'ange Gabriel à Zacharie, qui lui a dit « Il sera rempli de l'Esprit-Saint dès le sein de sa mère ». Élisabeth aussi est remplie de l'Esprit-Saint, on le voit au verset 41. Parce que seul le Saint-Esprit peut lui avoir révélé que l'enfant que porte Marie est son Seigneur. Elle l'appelle son Seigneur, au verset 43. Le peuple juif attendait depuis longtemps l'accomplissement de la promesse de Dieu de la venue d'un Messie, d'un libérateur, d'un sauveur. Et le temps de l'accomplissement de cette promesse est enfin arrivé. Élisabeth le sait, l'ange a annoncé à Zacharie que son fils Jean préparerait le peuple pour l'arrivée du Seigneur. Elle sait que le temps messianique est arrivé. Mais c'est le Saint-Esprit qui lui a révélé que Marie est enceinte de ce Seigneur-là. Seul le Saint-Esprit pouvait lui révéler une telle nouvelle. Voilà que le Saint-Esprit y conduit dans la vérité. Nul ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit, écrira l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens. Et ce terme « Seigneur » montre bien qu'il s'agit du Messie un peu plus tard dans le récit de Luc, lorsqu'un ange apparaîtra au berger près de Bethléem après la naissance de Jésus. Il leur dira « Je vous annonce une bonne nouvelle. Dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ. » Le Seigneur. C'est en Luc 2. Ce terme de Seigneur montre l'autorité qu'aura Jésus. Et Élisabeth, elle reconnaît cette autorité, et sous l'inspiration du Saint-Esprit. C'est pour cela qu'elle s'abaisse devant Marie, parce que l'enfant que Marie porte est plus grand que celui qu'elle porte. Et c'est à peu près l'équivalent de ce qu'a fait Jean plus tard, lorsqu'il reconnaîtra la suprématie de Jésus. Il reconnaîtra qu'il n'est même pas digne, en se baissant, de lui enlever les chaussures, de dénouer la courroie de ses souliers en termes publics. C'est conscient de qui est Jésus qu'Élisabeth s'humilie et qu'elle constate la bénédiction, le privilège de Marie d'avoir été choisie par Dieu pour donner naissance à Jésus. Le fruit de son sein est béni puisqu'il n'est pas moins que le Sauveur du monde dont la venue accomplit toutes les prophéties concernant le salut. Élisabeth, elle ne prononce pas une parole de louange à Marie, mais une adoration de l'enfant qu'elle portait. Il nous a même dit qu'elle crie tellement elle s'émerveille de ce que Dieu est en train d'accomplir sous leurs yeux, de ce que le Saint-Esprit leur a révélé. Ça m'interroge sur notre propre louange. Est-ce qu'on a cette même excitation, ce même émerveillement, cette même joie de voir l'œuvre de Dieu, de voir les promesses de Dieu s'accomplir? Le Saint-Esprit produit en nous cette œuvre. Éphésiens 5 nous dit « Soyez au contraire remplis de l'Esprit, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ. » Sous l'inspiration du Saint-Esprit, Élisabeth confirme à nouveau à Marie les paroles de l'ange Gabriel. Elle la déclare bienheureuse, parce qu'elle a cru la promesse de Dieu transmise par l'ange Gabriel. Elle a simplement acquiescé en disant « Je suis la servante du Seigneur ». Ce terme de bienheureuse, c'est le même que celui qui est repris par Jésus dans les Béatitudes. C'est ce discours de Jésus où il dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, heureux ceux qui sont persécutés, etc. etc. » La personne bienheureuse, en fait, c'est celui ou celle qui fait la volonté de Dieu, rien de plus. On voit donc dans ces premiers versets que le Saint-Esprit œuvre pour attirer nos regards sur Dieu, sur Jésus. Il rend gloire à Dieu le Père et à Dieu le Fils. Et il confirme la fidélité de Dieu à ses promesses. Dieu tient parole. Et Marie répond ensuite à cette salutation d'Élisabeth en s'adressant directement à Dieu dans un célèbre cantique. On appelle le cantique de Marie, parfois il est appelé le Magnificat. Avec toute la joie qui l'habite, elle s'adresse à Dieu pour l'adorer. Elle magnifie Dieu, elle loue Dieu pour sa puissance et elle rend gloire à Dieu. Marie, elle aurait pu réagir à l'appel de Dieu comme Moïse le fit jadis. Elle aurait pu mettre en avant ses limites, comme Moïse qui a répondu « Qui suis-je pour aller voir le Pharaon ? Et puis tu le sais bien, j'ai la langue embarrassée, je ne suis pas sûr d'être la bonne personne. Il y a certainement des personnes plus qualifiées que moi. » Et on est peut-être tenté de réagir de la même manière que Moïse lorsqu'il est question de prendre des responsabilités ou de s'engager dans l'Église. « Je suis sûr qu'il y a des personnes plus douées que moi. » Mais Marie, elle n'a pas cherché à discuter, à polémiquer. Elle a dit oui. Elle a cru que Dieu pouvait être plus fort que toute sa faiblesse, qu'il pouvait choisir une femme toute simple qui allait épouser un charpentier. Elle ne semble pas avoir douté un instant. En tout cas, c'est ce que laisse suggérer Luc. Elle n'a pas douté qu'elle pouvait entrer dans le projet de Dieu, y trouver sa place pour devenir l'un des maillons de la chaîne par laquelle Dieu a promis de bénir toutes les nations. Et dans les quelques phrases de ce cantique, on voit toute l'humilité de Marie. La foi et l'humilité, c'est peut-être ce qui caractérise, qui définit le mieux Marie. Parce que dans un sens, cette naissance, ce n'est pas un cadeau. À vue humaine, elle va devoir subir la honte d'être enceinte alors qu'elle n'est pas encore mariée. Elle va subir les commérages, peut-être les insultes, les vexations, une mise à l'écart de la société dans son village. Mais elle voit par la foi, grâce au Saint-Esprit, la bénédiction qu'est la venue du Sauveur du monde. Elle fait entièrement confiance à Dieu. Elle se réjouit devant la personne de Dieu. Marie, c'est un exemple pour nous parce qu'elle est imprégnée de la parole de Dieu. Son cantique est inspiré de plusieurs psaumes qu'elle cite. Elle cite le psaume 107, elle cite le psaume 103, le psaume 98 qu'on a lu d'ailleurs dans la première partie de ce culte. Elle cite un verset de chacun de ces psaumes. Son cantique ressemble également à celui du cantique de Anne dans l'Ancien Testament qui se réjouit que Dieu lui ait accordé un fils, Samuel, alors qu'elle était stérile. Vous pouvez lire cette histoire dans le premier chapitre de 1 Samuel. On voit que Marie, elle est imprégnée de la parole de Dieu. Mais elle est aussi un exemple parce qu'elle ne cherche pas à attirer les regards sur elle. Mais elle nous invite à contempler la puissance de Dieu, à lui rendre gloire à lui seul. Elle s'appuie sur ce que Dieu a déjà fait pour son peuple, et pour elle qui est enceinte alors qu'elle n'a jamais connu d'homme, elle s'appuie sur ses promesses. Elle ne cherche pas à attirer les regards sur elle, elle nous parle de Dieu. C'est ce qu'il fait qui la rend heureuse, c'est ce qu'il fait qu'elle nous raconte. Elle se considère comme une humble servante au service de Dieu. C'est ce que nous sommes nous aussi en réalité. Alors il est vrai qu'elle a été choisie pour une mission bien particulière, une mission très noble, comme un simple hobbit dans l'histoire du Seigneur des Anneaux qui est désigné pour une grande mission. Si Marie a été choisie, c'est pas pour son rang de noblesse, mais certainement plutôt pour son humilité. Elle n'a pas discuté avec Dieu, elle a juste demandé « Comment cela arrivera-t-il » quand l'ange est venu lui annoncer. Et après que l'ange ait répondu, elle s'est soumise en déclarant « Qu'il me soit fait selon ta parole ». L'humilité, c'est une caractéristique des grands hommes et des grandes femmes de Dieu. Pour Dieu, l'humilité, elle est synonyme de grandeur. Et la puissance de Dieu, elle se manifeste avec éclat lorsqu'il utilise des instruments faibles pour accomplir de grandes choses. Il utilise un petit berger plein de confiance nommé David et cinq pierres polies pour abattre le géant Goliath. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Dieu a choisi les choses viles du monde, celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. C'est une citation de 1 Corinthiens. Marie fait partie de ces choses faibles du monde. Marie était ordinaire tout en étant extraordinaire dans sa foi et son humilité, mais elle était totalement dépendante de Dieu dans tout ce qui lui arrive. Elle reconnaît même qu'elle a besoin de Dieu pour son salut, pour être pardonnée de ses péchés. Elle appelle Dieu son sauveur, au verset 47. Elle voit que son salut dépend de la grâce que Dieu accorde. Elle chante la réalisation des promesses de Dieu. Dieu tient parole. Et Marie est en train de le vivre dans son propre corps. Elle est bien placée pour le savoir. Et elle se réjouit. Le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint, sa miséricorde s'étend d'âge en âge. Elle voit la gloire de Dieu qui se manifeste dans sa toute-puissance, dans les grandes choses qu'il accomplit, en utilisant les choses faibles du monde. Elle voit aussi la miséricorde qu'il offre, parce que c'est l'outil de la délivrance du peuple d'Israël qui prend forme dans le corps de Marie. Comment est-ce que nous-mêmes, on peut glorifier Dieu aujourd'hui? Déjà par nos louanges, comme Marie, par des lèvres, des cœurs, qui célèbrent son nom, son œuvre, sa personne, sa fidélité à ses promesses. Vous pouvez également rendre gloire à Dieu par des œuvres bonnes, nos bonnes œuvres. Glorifie Dieu si l'on cherche humblement à ne pas attirer les regards sur nous, mais sur Dieu qui les a préparés d'avance pour nous. On rend gloire à Dieu en portant du fruit, des fruits spirituels, le fruit d'esprit. Ce fruit, ce n'est pas un produit des efforts humains par des œuvres bonnes, c'est l'œuvre du Saint-Esprit dans le croyant qui produit amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Ce fruit, est produit lorsqu'il trouve un terrain favorable, pétri, labouré par la parole de Dieu, on pourrait dire, comme pouvait l'être Marie, son cantique en témoigne. Jésus a dit en Jean 15, « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » J'ai une amie qui a assisté dernièrement à un baptême d'un adulte de 55 ans qui venait d'une famille non chrétienne et qui avait vécu une grande partie de sa vie sans Dieu. Il racontait lors de son témoignage, de sa profession de foi à l'occasion de ce baptême, qu'il avait interrogé dernièrement son entourage, sa famille, ses enfants, en leur demandant « Mais quel changement as-tu remarqué en moi depuis que je suis chrétien ? Depuis que j'ai donné ma vie à Christ et que j'ai décidé de le suivre ?» Alors moi, je trouve ça courageux de poser la question, mais en même temps, il savait que, parce que la Bible dit que s'il était vraiment devenu chrétien, si le Saint-Esprit est venu habiter en lui, le changement doit être visible. Alors, je ne sais pas quels sont les détails qui lui ont été formulés par sa famille, mais cette transformation, elle est le reflet de l'œuvre de Dieu dans sa vie. Et il rendait gloire à Dieu pour ce que Dieu faisait dans son cœur, conformément à sa promesse de faire de nous une nouvelle créature, progressivement, par la sanctification. Enfin, dans les dernières strophes de ce cantique, Marie loue Dieu pour sa miséricorde, pour la révolution qu'il est en train d'opérer. Dieu est en train de délivrer son peuple, conformément à sa parole. Une grossesse en soi, c'est quelque chose d'ordinaire, d'assez commun. Vu de l'extérieur, sans connaître le contexte, cette grossesse, elle pourrait passer inaperçue. Les grossesses dont on parle, c'est quand elles concernent un couple de stars ou une famille royale. Dès que la princesse Kate est enceinte, le monde entier est au courant et les médias scrutent les moindres faits et gestes du petit George, le fils aîné de William et Kate, qui deviendra probablement un jour le roi d'Angleterre. Mais la grossesse de Marie, qui peut savoir qu'elle aura une portée extraordinaire? En fait, très peu de monde est au courant. Mais Marie, elle sait que cette grossesse est une révolution. Et qu'à travers son fils, Dieu le Père va accomplir les promesses millénaires de délivrance de son peuple, ses promesses de grâce, de miséricorde. Elle voit que Dieu a déployé la force de son bras, verset 51, pour sauver son peuple. Et Dieu a le bras long. Sa main n'est jamais trop courte pour sauver. Marie témoigne de la révolution profonde qui va résulter de la naissance de son fils. Par son œuvre, il va renverser les orgueilleux, les puissants, les riches il va élever les humbles, les affamés, ceux qui n'ont rien, les opprimés. Jésus va renverser la hiérarchie établie en libérant, par exemple, son peuple de l'enseignement des autorités religieuses de l'époque. Il va s'opposer aux riches et aux puissants, aux responsables juifs, aux pharisiens, aux sadducéens, qui l'accusent de rechercher leur propre gloire et de perdre le peuple. Et Jésus va confier la responsabilité du peuple qu'il est venu chercher et racheter à des pêcheurs de poissons et des péagers. Il confie son peuple, l'Église, à des personnes de conditions humbles, peu instruites, mais des personnes qui craignent Dieu et qui aiment Jésus. C'est vrai que toute personne qui voudrait communiquer au monde qu'il est l'envoyé de Dieu, il passerait par les personnes influentes, les rois, les riches, les élites, les médias, pour favoriser l'acceptation de son message, n'est-ce pas ? Eh bien Dieu, lui, choisit une naissance dans une humble famille pauvre, sans histoire, de Nazareth. Et cette naissance va changer la face du monde. Même notre calendrier est basé sur cet événement tellement il est important, tellement c'est une révolution pour le monde. Il y a l'avant et l'après Jésus-Christ. Et Luc montre à de nombreuses reprises dans son évangile, à quel point Jésus se soucie des rejetés, des exclus, des prostituées, des pauvres, des malades. Et quand Jean-Baptiste, du fond de sa prison, va s'interroger sur Jésus et lui envoyer ses disciples, les disciples de Jean, pour demander à Jésus « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus lui répond par des faits. « Regarde, les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » Jésus répond en montrant les signes spectaculaires qui démontrent son autorité et l'accomplissement des prophéties le concernant. La puissance de Jésus démontre qu'il est celui qui était annoncé par l'Écriture. Mais la délivrance principale que Jésus a offerte, elle est le fruit de sa mort et de sa résurrection. 33 ans plus tard, Jésus mourra sur une croix, lui juste et innocent, pour nous délivrer de nos péchés, pour nous permettre d'être pardonnés par Dieu. Car Jésus a pris notre condamnation à la croix. Les bras de Dieu sont encore grands ouverts aujourd'hui pour recevoir ceux qui veulent accepter sa grâce et son pardon. Et ça peut être vous, si vous n'avez pas encore répondu à l'appel de Dieu, qui attend avec impatience et patience aussi d'être réconcilié avec vous et de vous pardonner. L'intervention de Dieu en Jésus accomplit les promesses faites à David, qu'on a lu tout à l'heure, que son descendant aurait un règne éternel, mais aussi celle faite à Abraham, que toutes les nations de la terre seraient bénies en sa postérité. Sa postérité au singulier, hein, comme au verset 55. Et bien c'est Christ. Et vous pouvez lire Galates 3 et 4 si vous voulez vous en convaincre. Le Dieu que chante Marie, c'est le Dieu qui se souvient de son peuple, qui agit en sa faveur, à cause de sa bonté et des promesses du passé. Dieu est fidèle et Marie l'exalte pour cela. Dieu est toujours fidèle à ses promesses. Il n'en trahira jamais une seule. Quand j'étais petit, on aimait bien jouer à des jeux de société avec ma famille. Et un jour, mon père avait invité un collègue de travail à manger à la maison. On avait terminé la soirée en jouant au jeu Risk, Conquête du Monde. Peut-être que vous connaissez, vous y avez déjà joué. Je pense qu'il y en a qui ont déjà joué là-dedans. Au début de la partie, on tire une carte qui nous donne une mission qui peut être soit d'éliminer un autre concurrent, soit de conquérir un territoire. Il se trouve que du haut de mes 7 ans, j'avais contracté une alliance avec le collègue de mon père. Il s'agissait d'un pacte de non-agression. On s'était mutuellement engagé à ne pas s'attaquer au cours de la partie. Je ne sais plus trop pourquoi, mais au bout d'un moment, ses intérêts ont changé. Et il a voulu attaquer un territoire que je détenais. Lorsque j'ai entendu ses intentions, j'ai littéralement fondu en larmes. Je ne pouvais pas imaginer qu'on puisse trahir sa parole. C'était totalement impensable, j'étais dévasté. J'ai tellement pleuré, bon, il a dû être tellement gêné de m'avoir mis dans cet état, qu'il a finalement renoncé à rompre l'alliance. Mais je venais découvrir qu'on pouvait trahir ses engagements et pas respecter ses promesses. Mais avec Dieu, c'est jamais le cas. Si nous, on est fidèles, lui, il demeure fidèle. S'il a fait une promesse, on a la certitude que lui, il respectera sa parole. On ne sait pas forcément quand et comment elle s'accomplira, mais on sait qu'elle s'accomplira. C'est aussi certain que 1 plus 1 égale 2. Quand vous lisez une promesse de Dieu dans la Bible, il y a seulement trois solutions. Soit elle s'est déjà accomplie, soit elle est en train de s'accomplir, soit elle va s'accomplir. Et ça, c'est 100% sûr. Marie, elle est restée ensuite 3 mois chez Zacharie et Élisabeth. Alors peut-être qu'elle a attendu la naissance de Jean-Baptiste. Puis elle est retournée à Nazareth où elle sait qu'elle va affronter les commérages, mais elle sait aussi que Dieu la justifiera un jour. Heureusement qu'elle peut s'appuyer sur les révélations exceptionnelles qu'elle a reçues et sur les promesses de la parole de Dieu pour surmonter les difficultés qu'elle va rencontrer. Et nous aussi, on peut s'appuyer en toute confiance sur Dieu, sur la délivrance qu'il offre, sur sa parole qui nous instruit et qui nous encourage. J'ai déjà beaucoup parlé, donc on va conclure. Alex nous a rappelé au tout début de ce culte qu'on est dans la période de l'Avent. C'est une période d'attente de la fête de Noël, qui célèbre la naissance de Jésus. Cette période de l'Avent, elle est utile pour nous rappeler l'attente des générations de ceux qui espéraient en Dieu et qui attendaient l'accomplissement de la promesse de la venue du Messie. Cette promesse, elle s'est accomplie en Jésus. Mais il y a de nombreuses promesses que Dieu nous a laissées dans la parole pour nous qui vivons encore aujourd'hui. Il promet son pardon lorsque nous confessons nos péchés. Il promet la vie éternelle à ceux qui reconnaissent Jésus comme leur Sauveur et leur Seigneur. Il a promis de nous délivrer de la peur. Il a promis de pourvoir à tous nos besoins. Il a promis de donner de la sagesse à ceux qui lui demandent sincèrement. Il a promis de nous délivrer de la tentation. Il a promis qu'un jour, il mettrait fin à la mort, au chagrin, à la douleur. Et enfin, Jésus a promis qu'il reviendrait. Et il reviendra. On peut en être certain, il l'a promis. Alors soyons donc comme Abraham, dont nous parle l'Épître aux Romains au chapitre 4. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Amen. On prie. Merci notre Dieu, parce que tu es digne de confiance. On peut être certain que toi, tu tiens parole. Tu l'as prouvé maintes et maintes fois dans l'histoire par ta fidélité envers le peuple d'Israël que tu avais choisi. Tu as toujours été fidèle, malgré l'infidélité de ton peuple, malgré notre infidélité. Merci parce que tu as respecté ta promesse d'envoyer un jour ton Sauveur dans le monde, qui n'était pas moins que ton propre Fils, pour mourir sur la croix, pour nous délivrer de la malédiction du péché. Aide-nous à nous appuyer sur toi en toute confiance. Remplis notre cœur de l'assurance, de la pleine conviction que ce que tu promets, tu l'accomplis aussi en ton temps. Amen.